Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capot Diamant, Québec Science, Virage et Bel Âge Plus. Au programme, Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Découverte des plus anciennes pointes de flèches du continent américain. Détecter le cancer colorectal plus tôt que trop tard. Et trois stratégies de mieux être. Bonne écoute.
Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Un texte de Jacques Saint-Pierre, paru dans le magazine Capot Diamant, hiver 2022, le numéro 148. Henri-Gustave Joly de Lotbinière est un personnage fascinant de l'histoire du Québec. Il n'avait pas, jusqu'à maintenant, eu droit à une biographie exhaustive, même s'il fut le premier chef du Parti libéral du Québec et le premier chef de l'opposition à l'Assemblée législative après la Confédération. On le connaît surtout pour avoir été brièvement premier ministre de la province à la suite de ce que l'on nomme le coup d'État de Letellier de Saint-Just dans les manuels d'histoire. Cette crise constitutionnelle qui se déroula en 1878, fut déclenchée par le lieutenant-gouverneur Luc Letellier de Saint-Just. Invoquant un manque de communication avec le gouvernement conservateur de Charles-Eugène Boucher de Boucherville, le représentant de la reine destitua le premier ministre et appela le chef de l'opposition d'allégeance libérale, Henri-Gustave Joly de Lotbinière, a formé un autre cabinet. Comme ce dernier formait un gouvernement minoritaire, il fallut tenir des élections. Les résultats laissèrent les deux partis avec le même nombre de députés, excluant le président de la Chambre. Se trouvant dans une situation précaire, le gouvernement Joly fit face à des motions de censure qui ne purent être battus que grâce au vote prépondérant du président de la Chambre. Ce gouvernement libéral survivra 18 mois, au cours desquels le premier ministre Joly de Lotbinière mènera une politique de compression des dépenses publiques et complétera la ligne de chemin de fer entre Ottawa et Québec, en surveillant lui-même les travaux, à titre de commissaire des travaux publics. Le bilan de son mandat est mince, mais Joly n'avait pas convoité le pouvoir et s'était retrouvé à la tête du gouvernement de la province, bien malgré lui. En 1867, il avait été choisi chef du groupe de députés libéraux et par le fait même, chef de l'opposition, étant le plus expérimenté pour avoir siégé au Parlement du Canada uni de 1861 à 1867. Contrairement à de nombreux politiciens de son temps motivés par l'ambition, il s'est donc retrouvé à l'avant-scène de la politique québécoise par un concours de circonstances. Cela n'en diminue pas moins ses qualités personnelles. Lucie Desrochers dépeint Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière sous les traits d'un gentleman, d'un politicien intègre qui servira sa province et son pays dans diverses fonctions durant plus de 50 ans, dont 27 comme député du comté de Lotbinière. Durant la courte période où il exercera le pouvoir, en particulier, il ne dérogera pas de sa ligne de conduite, alors que le favoritisme, le financement occulte, l'ingérence du clergé catholique, les conflits d'intérêts marquaient les mœurs politiques québécoises. fils de Pierre-Gustave Joly, un commerçant de champagne d'origine suisse, qui, après son mariage à Julie-Christine Chartier de Lotbinière, devient gérant de la seigneurie de Lotbinière et y développe le commerce du bois. Henri-Gustave Joly est né et a été éduqué en France. De religion protestante, il épousera une anglophone de Québec, Margaretha Josepha Gowen, fille de Hammond Gowen, commerçant en vue, et il s'intégrera très rapidement à la haute bourgeoisie de la vieille capitale. Il deviendra officiellement seigneur de Lotbinière en 1860 lorsque sa mère lui fera donation de ses terres. Le respect qu'il s'était attiré dans sa carrière à Québec lui vaudra d'être recruté en 1896 par Wilfrid Laurier sur la scène fédérale. Ce dernier lui confiera alors le ministère du Revenu de l'Intérieur. 4 ans plus tard, Henri-Gustave Joly sera nommé lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique avec pour mission de tenter de rétablir une certaine stabilité politique dans cette province. Ce sera son dernier mandat. Henri-Gustave Joly est décédé à Québec le 16 novembre 1908. Parallèlement à sa carrière politique, le seigneur de Lotbinière s'est intéressé à la foresterie. Henri-Gustave Joly a été un pionnier de la conservation des forêts au pays. L'ancien domaine seigneurial de Lotbinière, un site patrimonial et une réserve écologique dont la gestion est aujourd'hui assurée par la fondation du domaine Joly de Lotbinière, et la forêt domaniale acquise par le ministère des Terres et Forêts en 1967, qui est la plus vaste forêt publique des Basses-Terres du Saint-Laurent, témoigne encore de ses préoccupations pour la protection des forêts et la plantation d'arbres. L'historienne Lucie Desrochers signe ici un ouvrage de fond sur un personnage politique singulier de la seconde moitié du 19e siècle. Elle a puisé à toutes les sources disponibles, y compris la riche collection d'archives de la famille Joly de Lotbinière, déposée aux Archives nationales du Québec. À travers la vie d'Henri-Gustave Joly, c'est tout un pan de la vie politique et parlementaire du Québec des premières années de la Confédération qui nous est livré par l'auteur dans un récit vivant qui saura plaire à un large public. C'était Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, un texte de Jacques Saint-Pierre, paru dans le magazine Capot Diamant, hiver 2022, le numéro 148.
Découverte des plus anciennes pointes de flèches du continent américain. Un texte de Charles Prémont, paru le 11 avril 2023 dans le magazine Québec Science. Des fouilles archéologiques menées par Lauren Davis de l'Université d'État de l'Oregon ont mis au jour les plus vieilles pointes de projectiles d'Amérique du Nord. Âgées de 15 700 ans, elles pourraient être, selon l'équipe, antérieure de 3 000 ans aux pointes dites de Clovis, longtemps considérées comme les premiers outils du continent. Ce sont 13 pointes de projectiles, dont la longueur oscille entre 1,5 et 5 cm, ainsi qu'un fragment d'une probable pointe qui ont été déterrées sur le site Cooper's Ferry en Idaho. Ces pointes à pédoncules étaient probablement fixées sur des manches et utilisées pour la chasse. Pour Adrian Burke, spécialiste de l'archéologie préhistorique de l'Amérique du Nord et professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, la découverte n'est pas si surprenante, mais elle enfonce un clou de plus dans le cercueil de la théorie voulant que la technologie des pointes Clovis soit la plus vieille du continent. On n'a pas d'objets datés de la période Clovis qui peuvent entrer en compétition avec ces dates-là, indique-t-il. En plus, la qualité des données est très bonne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. Les auteurs de l'article publié dans la revue Science Advances suggèrent un lien entre les pointes trouvées sur le site de Cooper's Ferry et d'autres, très ressemblantes, trouvées sur l'île d'Hokkaido au Japon et dont la datation oscille entre 16 000 et 20 000 ans avant aujourd'hui. Selon eux, leur découverte renforce l'hypothèse d'une filiation génétique et culturelle entre les peuples anciens du nord-est de l'Asie et ceux de la côte ouest de l'Amérique. Cette théorie sur le peuplement de l'Amérique par une immigration le long de sa côte ouest n'est pas nouvelle, mais la trouvaille peut apporter de l'eau à son moulin, selon Adrian Burke. Il en faudra toutefois plus au professeur pour être convaincu. Ce lien technologique est la partie la moins claire de l'article, indique-t-il. C'est un réflexe d'archéologue. On trouve quelque chose et on tente de retrouver cette chose ailleurs, avec des datations plus anciennes. Il y a des similarités entre les pointes, mais il y a encore du travail à faire pour prouver la filiation. Une analyse comparative fine des deux technologies est de mise, d'après lui. D'autres fouilles pourraient également apporter des réponses. La question maintenant, c'est de savoir quel site va nous donner la clé pour prouver ce lien avec l'Asie. En bon archéologue, Adrian Burke pense que la réponse se trouve peut-être un peu plus creux. C'était « Découverte des plus anciennes pointes de flèches du continent américain », un texte de Charles Prémont paru le 11 avril 2023 dans le magazine Québec Science. Détecter le cancer colorectal plus tôt que trop tard. Un texte de Frédéric Charret, paru le 6 mars 2023 dans le magazine Virage. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer au Québec. Près de la moitié des cas sont déjà à un stade 3 ou 4 lorsqu'ils sont diagnostiqués. Pourtant, 3 Québécois sur 4 ignorent toujours l'existence d'un test rapide et non-invasif qui permet de détecter des lésions précancéreuses. Le cancer situé dans le gros intestin laisse souvent des traces de sang dites occultes dans les selles. Celles-ci sont invisibles à l'œil nu. En revanche, elles sont détectables par le test de dépistage immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles. RSOSI. Ce test consiste à prélever un échantillon de vos selles dans le confort et l'intimité de la maison. L'échantillon sera ensuite analysé en laboratoire. Sauver des vies. Malgré son efficacité, 76% des répondants à un sondage léger réalisé en 2022 n'ont jamais entendu parler du test de dépistage RSOSI, selon la Société canadienne du cancer, SCC. Lorsque le cancer colorectal est détecté et traité à un stade précoce, stade 1 ou 2, les chances de réussite du traitement augmentent et celles de survie après 5 ans sont d'au moins 90 %, explique Alexandra Lalonde, gestionnaire de projet, prévention du cancer et promotion de la santé à la SCC. Cette dernière invite toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans à prendre conscience de l'importance de la détection précoce dans le cadre du mois national de la sensibilisation au cancer colorectal. Lorsque ce test est réalisé à temps, il peut permettre d'interrompre l'évolution du cancer colorectal et sauver des vies. Au stade plus avancé, stade 4, le taux de survie au cancer colorectal ne dépasse pas 11 % selon la SCC. En 2022, près de 6 200 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer colorectal. Environ 2 550 ont été emportés par la maladie. Résultat anormal. Les spécialistes recommandent de passer le test tous les 2 ans. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir une ordonnance pour vous procurer une trousse de prélèvement. Le résultat de ce test ne vous confirmera pas que vous avez un cancer ou non. Si le test détecte du sang dans vos selles, votre résultat sera considéré anormal. Dans ce cas, votre médecin vous recommandera de passer une coloscopie longue, comme l'explique le site Web du gouvernement du Québec. Sur 1000 personnes qui font le test de dépistage, 36 auront un résultat anormal et devront ensuite passer une coloscopie longue. Parmi ces 36 personnes, 4 auront un cancer colorectal. 17 se feront enlever un ou plusieurs polypes, de petites masses de chair qui poussent dans le gros intestin et qui peuvent parfois se transformer en cancer. 15 n'auront ni polypes ni cancer. La présence de sang dans les selles n'est pas nécessairement un signe de cancer. D'autres problèmes de santé peuvent aussi en être la cause, comme les hémorroïdes ou les fissures anales. Les personnes à risque élevé de cancer colorectal devraient passer un test de dépistage plus fréquent et à un âge plus précoce que les personnes à risque moyen. Selon l'organisme Cancer colorectal Canada, CCC, vous pourriez être plus à risque si vous avez l'un des éléments suivants. Des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polype évidents, une maladie inflammatoire de l'intestin, colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, un syndrome de cancer héréditaire comme le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale, PAF. 3 faits sur le cancer colorectal. En 2022, le cancer colorectal a causé plus de morts que les cancers du sein et de la prostate réunis. Plus de 9 cas de ce cancer sur 10 apparaissent après l'âge de 50 ans. En 2022, le cancer colorectal a représenté environ 10 % de tous les nouveaux cas de cancer au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web de la SCC ou composez le 1-888-939-3333. La SCC vous recommande de parler à votre médecin si vous êtes préoccupé par vos symptômes ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal. C'était « Détecter le cancer colorectal plus tôt que trop tard », un texte de Frédéric Charret paru le 6 mars 2023 dans le magazine Virage.
Trois stratégies de mieux-être, un texte de Jessica Dosti, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Personne n'est à l'abri des épreuves et du stress qui accompagnent le privilège d'être en vie, écrit la psychologue Isabelle Soucy dans son livre « En attendant le psy ». Le titre de cet ouvrage n'est pas anodin, alors que l'Organisation mondiale de la santé considère le stress, la dépression et les autres troubles mentaux comme l'épidémie du 21e siècle, les listes d'attente s'allongent à tel point qu'on a presque l'impression d'avoir gagné la loterie quand on réussit à obtenir un rendez-vous. L'objectif avoué de l'autrice? Que ce livre bienveillant et les 43 stratégies de bien-être qu'elle y prescrit accompagnent ceux qui en ressentent le besoin et contribuent à améliorer leur état d'esprit. Voici donc 3 exercices assez simples à mettre en application chaque jour pour se sentir un peu mieux en attendant le psy. 1. Respirez. Il suffit parfois de moins d'une minute de respiration profonde en pleine conscience pour rétablir un certain équilibre. En outre, leurs bienfaits pour réduire l'anxiété, entre autres choses, sont bien connus. Les techniques de respiration sont faciles et accessibles, explique Isabelle Soucy. Même si on n'y consacre que 30 secondes chaque jour, leurs effets sur notre bien-être sont cumulatifs. On ne sait pas par où commencer? Plusieurs audioguides peuvent nous guider, à commencer par les exercices de pleine conscience que propose la psychologue sur sa chaîne YouTube intitulée « Calme au cœur du chaos » youtube.com. 2. Bouger. C'est prouvé scientifiquement. L'activité physique contribue à réduire les symptômes de dépression, voire à prévenir leur apparition. Une méta-analyse de 15 études totalisant 191 130 participants parue récemment dans la revue JAMA Psychiatry a même démontré que le risque de souffrir de dépression chute de 25 % chez les adultes qui cumulent au moins 150 minutes d'activité à intensité modérée par semaine, soit de 15 à 20 minutes chaque jour. Pour y arriver, la psychologue suggère de choisir une activité qui nous plaît et de prévoir des récompenses pour célébrer chaque réussite. Marche, vélo, natation, on a l'embarras du choix en fonction de nos goûts et de nos capacités. 3. Noter. Chaque soir, avant d'aller au lit, faire un bilan quotidien de gratitude permet de reprogrammer notre cerveau afin de l'aider à adopter le mode de la reconnaissance pour ce qui nous entoure, décrit Isabelle Soucy. C'est simple. Il suffit de passer notre journée en revue et de se remémorer le positif, même les détails les plus anodins. Ça peut être autant le goût de notre café du matin que le sourire d'un inconnu croisé à l'épicerie, par exemple. Cet exercice de récapitulation nous aide à nous endormir en gardant en tête un portrait plus nuancé des événements du jour. Ressources gratuites. Info Santé 811. Tel aîné 514-353-2463. Tel écoute 514-493-4484. Tel aide Montréal 514 1-1-0-1. Écoute Entraide 514-278-2130. Suicide Action Montréal 1-866-277-3553. Quelques chiffres. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, considère le stress, la dépression et les autres troubles mentaux comme l'épidémie du 21e siècle. À preuve, 280 millions de personnes souffriraient de dépression dans le monde. Un Canadien sur cinq éprouverait des troubles de santé psychologique. Au Canada, près de 10 % des gens seront touchés par de l'anxiété généralisée au cours de leur vie. C'était 3 stratégies de mieux-être. Un texte de Jessica Dosti, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.